Salut à tous et bienvenue, c'est l'émission L'eau à la bouche proposée et présentée par Mathieu Tellen et Adrien Delgrange. L'eau à la bouche, émission mensuelle liée à l'environnement diffusée sur Radio Pays d'Hérault, Radio Clapas, Divergence FM et Radio Larzac. Pour cette émission de janvier 2011, deux reportages. Nous irons au bord du fleuve Hérault, dans des gravières plus ou moins abandonnées où la nature a repris ses droits. Reportage avec Daniel Oustrin de l'association Demain la Terre. Et puis nous irons visiter un jardin, le jardin de l'abbaye de Vignogoul entre Saint-Georges-d'Orque et Pignan, le jardin à travers les âges en hiver. Quant aux pauses musicales, elles sont signées Achat, extraites de son dernier album. Bienvenue à tous, c'est L'eau à la bouche.
Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than me. Says, but you worry much about things you don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? Cause life is short, do what you can today, today. One day you'll be happy. Nobody tell you the reason why I ask. I can see you're so confused. Oh, you worry much about the things you can't see. You have it all with your money, you still complain. Why not live this life while you're still young and still okay? Cause life is short, do what you can do it today. Why can't you be happy?
Daniel Oustrin, bonjour.
Bonjour Adrien.
Directeur de l'association Demain la Terre basée à Gignac, association d'éducation à l'environnement. Vous nous avez emmené aujourd'hui sur le site appelé Les Gravières, donc tout proche du fleuve Hérault. Pouvez-vous d'abord commencer par nous décrire là où nous sommes ?
Oui, avant tout, préciser qu'est-ce que c'est qu'une gravière. Une gravière, c'est un espace sur lequel on extrait du granulat, du sable et du gravier, pour des constructions, que ce soit pour des routes, que ce soit pour des bâtiments. Et donc le site sur lequel nous sommes est un site qui appartient à la commune de Gignac, sur la communauté de communes Vallée de l'Hérault, un site que l'association gère en partenariat avec la mairie de Gignac et sur lequel nous accueillons des scolaires ou du grand public pour faire découvrir ce milieu qui est assez riche, puisque là où nous sommes, ce n'est pas une gravière en cours d'extraction, mais un site qui a été extrait il y a de longues années et qui a été abandonné en l'état et qui est devenu maintenant un site d'intérêt écologique assez certain avec des micro-écosystèmes que je vous présenterai tout à l'heure.
Alors nous sommes à quelques mètres du fleuve Hérault.
Ou une bonne centaine de mètres du fleuve Hérault. On est sur une moyenne terrasse, la moyenne terrasse du fleuve, donc à peu près à 10 mètres au-dessus du fleuve. Et c'est un espace qui présente différentes couches de granulats. C'est la raison pour laquelle c'est un espace qui est fortement exploité pour l'extraction de sable et de gravier.
Depuis quand ces gravières ont-elles été exploitées ?
Alors celle sur laquelle nous sommes présents a été exploitée dans les années 80. Il y a eu des exploitations qui se sont faites bien en amont et notamment directement dans le fleuve, directement dans le lit mineur, chose qui ne se fait plus depuis bien longtemps puisque maintenant c'est devenu une pratique qui est interdite. Par contre, on exploite toujours sur les moyennes et hautes terrasses alluviales et il y a encore pas mal de sites qui sont en cours d'extraction puisqu'on a toujours besoin de granulats.
Avec des entreprises d'extraction situées non loin de là où nous sommes.
Voilà, en fait, il y a quatre entreprises qui font de l'extraction de granulats sur la zone de la moyenne vallée de l'Hérault. Ces quatre entreprises se partagent en fait l'ensemble du travail qui est à réaliser en extraction, que ce soit sur les communes qui vont depuis Saint-Jean-de-Fosse. Alors Saint-Jean-de-Fosse, on n'extrait plus, mais jusqu'à Canet, voire plus au sud encore, il y a des espaces d'extraction. La grosse partie des extractions se font actuellement sur Agnane, Gignac, Saint-André de Saint-Gonis et voilà pour la majorité.
En tout, vous nous parlez de 400 hectares déjà exploités ?
Oui, on peut considérer qu'il y a un peu plus de 400 hectares de gravière. Nous avions réalisé un partenariat avec les différentes collectivités qui sont présentes sur le territoire, avec les carriers, bien sûr, qui étaient partie prenante de ce travail-là, un état des lieux des gravières de la moyenne vallée de l'Hérault, pour justement avoir un état des lieux partagé, car on se posait la question du devenir de ces espaces, et notamment du morcellement de ces espaces, sachant que, bien sûr, il y a une législation qui permet de gérer la remise en état de ces carrières, mais sur toutes les carrières qui ont pu être extraites il y a des années, on s'est aperçu et on peut constater à travers le petit tour que l'on va réaliser qu'il y a pas mal de sites qui avaient été abandonnés en l'état ou des sites qui ont été rachetés par les propriétaires et puis qui ne font pas l'objet d'une remise en état ou d'un réaménagement. Et donc il était intéressant de voir dans un territoire comme le nôtre où on a une pression démographique importante, il est important de se demander bien tous ces espaces-là, qu'est-ce qu'ils deviennent, quels sont leurs intérêts sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan social. Nous, ce qui nous intéresse surtout en tant qu'éducateurs à l'environnement, c'est d'amener la population à s'approprier ces territoires, à se questionner sur le devenir de son territoire et à voir de quelle manière chacun peut participer à une reconversion durable de ces espaces. Notre travail, bien entendu, est un travail de sensibilisation. Ce n'est pas notre fonction d'aménager, mais bien d'amener les gens à réfléchir ensemble là-dessus.
Alors là, en l'occurrence, le rôle de Demain la Terre.
Oui, alors le site des gravières, le site pilote des gravières dont nous avons la gestion, en partenariat avec la commune de Gignac, nous permet d'accueillir des scolaires, comme je disais tout à l'heure, ou la population locale, ou même les personnes qui souhaitent venir seules peuvent très bien venir. C'est sur la départementale 32 entre la commune de Gignac en direction de Pézenas. Donc le site est accessible à tous, il est sécurisé pour la plupart des endroits. On a construit cette passerelle pour justement permettre aux visiteurs de pouvoir découvrir cette mare que nous avons devant nous. C'est une mare permanente sur laquelle on va trouver certaines espèces aquatiques, donc que ce soit des plantes, que ce soit des animaux. Alors on aura des espèces très particulières qui sont présentes là, notamment une utriculaire qui est une plante carnivore qui est très très peu connue et j'invite la plupart des gens à venir la découvrir. Nous avons une personne qui s'appelle Jacques Pagès qui a assuré le suivi de cette espèce sur le site parce que c'est une espèce qui a un fort intérêt écologique et qui est assez remarquable sur le territoire.
À quoi ressemble l'espèce ?
Alors c'est une petite plante qui est très discrète et qui a des petites utricules qui sont présente tout le long de la plante et c'est avec ces utricules que cette plante carnivore va en fait assimiler des micro-zooplanctons.
Alors ce qui est intéressant ici, donc nous sommes dans des sites qui ont été creusés et depuis en fait la nature a repris ses droits et de plus belle.
Donc nous sommes sur un site effectivement où on peut considérer que la nature a pu reprendre ses toits, d'autant plus que ce site n'avait pas fait l'objet du tout de remise en état. Et ce site a la particularité d'avoir été aussi l'ancienne décharge municipale. Donc il n'y avait pas mieux comme endroit pour montrer que finalement, sur un endroit comme celui-ci, on pouvait faire des choses intéressantes et développer des activités où on pouvait redécouvrir la nature qui nous entoure. Si on arrive à voir ça sur un site aussi dégradé, on peut tout à fait considérer que c'est valable pour d'autres sites qui étaient beaucoup moins dégradés. Donc depuis, la décharge municipale a été réhabilitée, remise en état. On ne voit plus qu'un espace plat comme une prairie finalement. Et puis à côté de ce site-là, eh bien, le site pilote des Gravières qui fait à peine 1 hectare nous permet de voir différents micro-écosystèmes qui sont vraiment tous assez riches sur le plan écologique et qui montrent la diversité de ce que l'on peut trouver dans l'ensemble des carrières. Donc je citerai les mares permanentes qui sont présentes là et que l'on a creusées à l'aide des carriers qui nous ont aidés, que ce soit des micro-falaises, que ce soit la zone boisée, que ce soit l'espace ouvert, la prairie dans laquelle on va aller tout à l'heure. Et chacun de ces espaces présente une faune ou une flore un peu particulière que l'on fait découvrir aux visiteurs.
On vous suit, Daniel Oustrin, directeur de Demain la Terre. Et donc c'est ici régulièrement que vous recevez le public, l'association Demain la Terre.
Oui, tout à fait. On réalise régulièrement des sorties pour le grand public dans le cadre de notre programme d'animation annuel ou pour les personnes qui souhaitent venir visiter le site, on accompagne les personnes. Et plus particulièrement, le volume d'activité de notre association est surtout tourné vers des activités auprès des publics jeunes, notamment des scolaires. Le site est utilisé très régulièrement pour des activités de découverte des milieux aquatiques, notamment des mares, ou lorsque une école travaille sur des questions d'éducation et développement durable. Rien de mieux que de travailler sur la gestion d'un espace comme ces gravières et de se questionner justement sur les activités économiques, l'intérêt écologique d'un lieu, de faire des jeux de rôle avec des enfants pour justement se questionner sur peut-on ou doit-on creuser à tel ou tel endroit pour pouvoir extraire du granulat, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, mais de faire ce que finalement peut vivre réellement une municipalité, des habitants et des riverains, des industriels qui veulent aussi développer une activité. Donc, à un moment donné, pour se questionner là-dessus, un lieu comme les Gravières est vraiment intéressant.
Ici, par exemple, qu'est-ce que vous montrez ?
Alors, cette mare-là, justement, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'on peut la comparer aux mares que l'on a vues précédemment. Celle-ci, elle est prise dans un espace boisé, donc elle bénéficie beaucoup moins d'ensoleillement, ce qui explique la couche d'algues que l'on voit qui est présente en surface. On distingue aussi un petit peu plus loin une ancienne voiture, donc qui est la preuve qu'on est bien effectivement sur une zone sur laquelle il y a eu à un moment donné des dépôts sauvages ou des déchets. En l'occurrence ici, il y avait cette décharge municipale que je citais tout à l'heure. On fait des activités de pêche avec les enfants sur cette zone-là pour justement voir un petit peu s'il peut y avoir de la vie ou non dans cette mare, déterminer les différentes espèces qu'il peut y avoir d'invertébrés. Donc il y a une multitude d'insectes aquatiques qui vivent là-dedans, ou d'amphibiens, ou encore d'autres espèces qui seront intéressantes. Et puis on va tourner avec les enfants pour faire des pêches aussi dans d'autres mares, notamment les mares temporaires qui sont à côté, sur lesquelles on ne trouvera pas les mêmes espèces végétales ou animales. Donc là, on est vraiment sur l'utilisation du site pour une activité plutôt liée aux sciences naturelles.
Un lieu, vous le disiez, mais on le rappelle, qui est très peu connu finalement du grand public.
Alors c'est ça qui est assez étonnant. On a une superficie, comme on le disait tout à l'heure, de plus de 400 hectares. La majorité de ces espaces-là sont connus particulièrement par les riverains, forcément, parce que ce sont les personnes qui y vivent, ou par les personnes qui vont être les usagers de ces sites, et qui sont quand même très peu nombreux. Alors bien sûr, les carriers, forcément. Ensuite, des promeneurs, qui sont assez rares, alors que nous avons la proximité du fleuve, et ça montre bien le manque d'appropriation du fleuve et le peu d'accès que l'on peut avoir des berges du fleuve Hérault. D'où la question de voir de quelle manière on peut faire en sorte que la population puisse se réapproprier ces espaces-là, pour justement redécouvrir ce fleuve qui est réellement une colonne vertébrale au niveau du département de l'Hérault. Donc c'est vrai qu'on est pourtant aux portes des villages. La majorité des gens passent sur les départementales ou sur les routes à côté, mais très peu de gens finalement vont faire le crochet pour passer par ici, parce qu'on est quand même sur un terrain qui n'attire pas. Et malheureusement, on constate qu'il y a quand même des dépôts sauvages assez réguliers. Ça montre bien que ces terrains-là ont une image assez négative, puisque les personnes, ou en tout cas très peu de personnes, mais ça suffit pour créer des dégâts, se permettent de venir encore faire des dépôts sauvages dans ces lieux. Ce qui est intéressant à se dire, c'est qu'avec la pression démographique que l'on connaît ici, c'est de voir quels sont les projets à venir, et on sait qu'il y en a de plus en plus et qui vont être nécessaires pour se dire de quelle manière on peut réexploiter ces espaces-là, les refaire vivre. Ce qui est intéressant de voir, c'est au niveau des projets qu'il va y avoir d'aménagement sur ces territoires-là, avec la pression démographique que l'on connaît actuellement, on peut être sûr qu'avec les collectivités, il va y avoir un travail de mener pour avoir une reconversion durable de ces gravières pour des activités économiques ou pour l'installation d'habitations ou en tout cas pour des activités de loisirs et de tourisme, puisqu'encore une fois, le fleuve mérite d'être connu, mérite à ce qu'on y accède beaucoup plus, et il y a un intérêt écologique certain. Le fleuve Hérault, je le rappelle, pour une de ses parties, était inscrit dans le réseau des sites Natura 2000. Ça crée un corridor vert qui est quand même particulièrement intéressant pour la faune et la flore. Donc on peut supposer que ce site-là sera mis en valeur très prochainement.
Pendant que les membres de l'association Demain la Terre participent à la réhabilitation de ces carrières, est-ce que finalement les carriers continuent de grignoter ailleurs ?
Alors, nous participons à la réhabilitation de ces carrières parce que nous, notre travail est de faire connaître. On n'est pas sur nous-mêmes sur l'aménagement de ces sites. Le seul espace que nous, on ait pu aménager, c'est le site pilote des gravières pour nos activités éducatives. Et le travail que l'on a pu faire, nous, pour faire connaître ces gravières, était justement de réaliser cet état de lieu partagé, plus une exposition qui est animée, qui nous sert à faire connaître justement ces gravières et à amener les gens à s'interroger sur le devenir des carrières. Maintenant, sur la restauration, la remise en état des carrières, c'est aux personnes concernées de le réaliser. En premier lieu, bien sûr, les carriers qui ont à charge la remise en état des carrières qu'ils exploitent. Donc, depuis la loi 94, dite la loi Somade, il y a des cautions financières qui sont retenues auprès des carriers, qui ont une autorisation d'extraction, donc une autorisation préfectorale pour creuser, et donc une obligation de remise en état. Ça, c'est une chose. Donc, forcément, les sites qui sont en cours d'extraction doivent faire l'objet d'une remise en état. Et là, c'est à la charge des carriers. Et puis les collectivités, bien sûr, dont on parlait, les collectivités type la communauté de communes Vallée de l'Hérault, la communauté de communes du Clermontais ou encore le département de l'Hérault ou les communes concernées, bien sûr, s'intéressent justement au devenir de ces espaces et de voir de quelle manière ils vont pouvoir justement réutiliser ces espaces-là. Il faut rappeler que ces espaces-là, avant de devenir des carrières, étaient pour la majorité des vignes. Maintenant, on a des excavations, donc des zones avec des trous qui font 3-4 mètres de profondeur, parfois moins, donc avec des superficies qui font des fois de 200 arts à jusqu'à 20 hectares, pourquoi pas, sur des zones homogènes. Donc cette diversité, cette mosaïque du territoire est complexe à gérer, et c'est aux acteurs de l'aménagement du territoire de gérer ça.
Mais est-ce qu'elle s'agrandit ?
Alors Saint-Granier, oui, il y a toujours des exploitations qui sont en cours, dont des extractions qui ont été autorisées sur différentes communes, notamment sur la commune de Gignac, on continue à extraire, sur la commune d'Agnan, des extractions, sur la commune de Saint-André de Saint-Gonis, il y a eu aussi des autorisations très récemment d'extraction. Donc on peut considérer que ça continue bien sûr à creuser, et il y aura encore de l'extraction tant qu'il y aura besoin de matériaux, qu'on n'aura pas de solution pour remplacer ces matériaux-là, sachant qu'on utilise de plus en plus de matériaux qui sont recyclés pour justement construire des routes et autres, mais il y a toujours besoin d'utiliser du sable, d'utiliser du gravier qui est extrait pour différents types de constructions.
Principalement pour le béton.
Essentiellement pour les constructions du type bâti, pour les routes, mais pas que. On utilise le sable pour de quantité d'activité. On ne le soupçonne pas forcément, mais c'est vrai que le sable est un matériau fin et noble qui est utilisé, donc en provenance des alluvions. Donc c'est un matériau dont on a besoin, mais c'est sûr que cette exploitation-là nécessite d'être bien encadrée, parce qu'une fois que le trou est creusé, on ne va pas le remplir par autre chose. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une législation et puis des collectivités qui font attention à ce qu'on ne creuse pas n'importe où. Bien sûr, il y a toujours des polémiques sur les endroits où ça va être creusé, mais là, ce n'est pas le travail d'une association comme un domaine à terre de s'en charger. Nous, on est encore une fois sur un travail de sensibilisation et d'éducation et d'amener les gens à se questionner et à réfléchir. On n'est pas là pour convaincre, on est là pour faire réfléchir.
Nous sommes donc sur ces gravières ici, sur la commune de Gignac, à quelques dizaines ou centaines de mètres du fleuve Hérault. Vous nous parlez donc que la population locale puisse se réapproprier ce fleuve. Parlez-nous à présent donc des actions que vous développez pour justement favoriser un accès plus facile au fleuve Hérault.
Alors, il y a plusieurs actions qui sont menées par l'association depuis maintenant assez longtemps. L'activité de l'association a commencé, je le rappelle, en 2001. L'association a été créée en 1999, donc ça fait plus de 10 ans que Demain la Terre est présente sur le territoire de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. On intervient aussi beaucoup sur le territoire de la communauté de communes du Clermontais, autour de Clermont-l'Hérault. Donc, c'est vrai que ces deux communautés de communes sont traversées par le fleuve. Et au-delà même du fleuve, c'est aussi des questions des enjeux de l'eau qui nous intéresse particulièrement. Donc on réalise des animations auprès des publics scolaires, on développe des projets pédagogiques avec le soutien des collectivités, que ce soit la région Languedoc-Roussillon, que ce soit le Conseil général de l'Hérault, que ce soit les collectivités, enfin les intercommunalités que j'ai citées, ou encore les services de l'État, la DREAL, l'Agence de l'eau, pour justement faire bénéficier à des écoles ou à des centres de loisirs d'activités qui leur permettent de sortir sur le terrain. C'est ça qui est important, d'amener les enfants dehors, et pas que les enfants, pour redécouvrir ces milieux, pour comprendre justement ces enjeux, pour comprendre l'intérêt écologique du fleuve et l'intérêt de le préserver, pour découvrir aussi les problématiques de gestion de la ressource en eau, que ce soit en termes qualitatifs ou quantitatifs. Donc là, par exemple, en 2011, on prévoit de réaliser une vingtaine de projets pédagogiques avec des classes du territoire. On prévoit de réaliser un séjour avec un centre de loisirs pendant l'été. On va réaliser plusieurs conférences, débats au sein de la médiathèque de Gignac avec laquelle on travaille beaucoup, ainsi que des sorties sur le terrain justement pour voir où se trouve l'eau et pour redécouvrir le fleuve, que ce soit la Ripisylve, que ce soit des éléments comme le canal de Gignac qui sont particulièrement intéressants et qui permettent l'irrigation d'une surface importante du territoire pour des activités agricoles. Donc toutes ces activités permettent justement de faire comprendre ces enjeux de l'eau sur le territoire et de valoriser le fleuve et de ramener les gens vers le fleuve pour justement découvrir les berges, découvrir la Ripisylve. À côté de ça, on souhaite pouvoir participer aussi aux différents projets qui vont sûrement voir le jour prochainement et qui permettront la mise en valeur de certains espaces en bord de fleuve pour accompagner un petit peu plus de public sur ces lieux-là. Il y a des zones de tourisme qui sont en train de se développer. On a bien vu avec la zone du Pont du Diable, c'est un site sur lequel on accueille énormément de public. Mais justement, ce sont des lieux qui sont assez intéressants pour justement mieux comprendre notre territoire, la provenance des matériaux, que ce soit pour comprendre les problématiques de crue, les problèmes de pénurie d'eau. Donc ces lieux-là sont intéressants justement à connaître et à aménager.
Mais alors, avant tout, pour les connaître, il faut par définition aussi pouvoir y accéder. Et là, en l'occurrence, il y a du travail aujourd'hui pour accéder physiquement au fleuve Hérault sur toute sa longueur.
Oui, alors il y a une réflexion qui est menée actuellement, qui est portée par le département de l'Hérault en collaboration avec les collectivités qui sont concernées, une étude qui s'appelle l'étude de la coulée verte, sur laquelle justement ce travail-là va permettre sûrement d'envisager les grands projets qu'il pourrait y avoir d'aménagement sur le territoire en moyenne vallée de l'Hérault, pour identifier les zones qui pourraient être ouvertes à la population pour l'accès aux berges, ou les zones sur lesquelles il est possible de développer des construction, des installations, que ce soit pour des habitations, pour que ce soit pour des zones d'activité économique. Donc là, c'est la fonction des collectivités de pouvoir se charger de ça. Il y a des cheminements qui sont à envisager en bord de fleuve, mais c'est quelque chose qui est à voir avec les propriétaires des rives, puisque la majorité des bords de fleuve appartiennent à des propriétés privées. Donc il y a tout un travail de concertation à mener avec l'ensemble des acteurs pour voir l'intérêt de ce territoire et pour voir de quelle manière justement on peut tous participer à la préservation et à la mise mise en valeur du fleuve Hérault. Donc le fleuve est vraiment un lieu particulièrement intéressant pour ses activités. Ce que l'on connaît moins, c'est justement la fonction même des berges du fleuve pour justement limiter les crues. L'intérêt écologique, je le citais tout à l'heure, de la Répisylve. Cette année, on est sur l'année internationale de la forêt. Si vous devez découvrir une forêt, la première que vous pouvez aller voir, c'est la forêt du bord de l'eau qui est le long du fleuve. On va proposer d'ailleurs au cours de l'année une sortie sur ce thème-là. Donc il y a énormément de choses à faire, à voir sur ce site-là et à participer chacun à ce genre d'activité pour déjà refaire du lien avec les personnes qui vivent et qui font des activités autour de ce site. C'est vraiment un site particulièrement intéressant et qui est encore une fois pas assez connu.
Vous êtes combien aujourd'hui à travailler au sein de l'association Demain la Terre ?
Alors je dirais une dizaine en comptant justement l'ensemble des administrateurs, puisque c'est avant tout une association qui est conduite par des administrateurs bénévoles. Donc il y a 6 administrateurs au sein du conseil d'administration de l'association et nous allons être 4 à partir de début janvier en tant que salariés. L'association travaille actuellement sur la réorganisation de son projet associatif. Une association qui a 10 ans a besoin de s'interroger sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle va devenir, et donc c'est le cas actuellement, de voir de quelle manière on travaille avec l'ensemble des partenaires du territoire pour faire avancer l'éducation à sur le territoire du cœur d'Hérault, pour voir de quelle manière on peut travailler ensemble à la valorisation du patrimoine, qu'il soit naturel ou culturel.
Merci beaucoup Daniel Oustrin.
Merci Adrien.
Directeur de cette association basée à Gignac. Au revoir et à bientôt.
À très bientôt.
Vous écoutez L'eau à la bouche, émission mensuelle diffusée sur Radio Pays d'Hérault, Radio Clapas, Divergence FM et Radio Larzac. Preacher man, please have some faith. I've come to you 'cause I lost my way. Here I am with my bag of shame. Oh, please don't send me away. Yesterday, like every other day, I had it all, but now it's all gone. Where are you? Where can I find you? Oh Lord, please show me your face. I need you now, I need you here, I need you every day. I would save money, I wouldn't help the needy. The pain just didn't move me. What am I? Who have I become? I'm reaching out, I need you now. Come ease this pain, I need you now.
Pour terminer cette émission de l'eau à la bouche, je vous propose de partir sur la route entre Saint-Georges-d'Orc et Pignan. On va s'arrêter à l'abbaye de Vignegoul. Plus précisément, nous allons nous arrêter juste à côté de l'abbaye à ses pieds, où se trouve désormais un nouveau jardin potager qui est cultivé, organisé, structuré, travaillé par l'association Eco Jarvi. Je suis avec Luc Ménard, qui est son président de cette association Eco Jarvi, qui proposait fin décembre dernier une visite guidée ainsi que l'inauguration de la mare et de l'hôtel des insectes et prédateurs. Tout d'abord, Luc Ménard, bonjour. Quelques mots sur cette association Eco Jarvi.
Alors Eco Jarvi, c'est l'école du jardin vivrier. Vivrier veut dire qu'on s'intéresse non seulement au potager, mais à toutes les plantes et toutes les techniques qui permettaient aux personnes de vivre avec un complément qui était le jardin, qui était aussi les techniques vivrières telles que les artisanats vivriers. C'est une association qui a une quinzaine d'années actuellement. On est passé par plusieurs jardins. Et puis le dernier jardin, eh bien, il n'y avait plus d'eau, donc on a été obligé de le laisser tomber. Et dans le cadre de mon métier, j'ai pu rencontrer l'association Notre-Dame de l'Aisne qui avait un coin de l'abbaye qui était abandonné. Et c'est l'ancien clos de l'abbaye, l'ancien endroit où il y a toujours eu un jardin depuis 600-700 ans. Et je trouvais que c'était vraiment dommage quoi, de laisser ça comme ça. Et on a décidé avec quelques amis de proposer comme sujet le jardin à travers les âges, c'est-à-dire avec une parcelle pour la préhistoire, une parcelle pour les gallo-romains, pour le Moyen-Âge, les grandes découvertes et le jardin moderne. Avec une parcelle spécialisée dans les plantes domestiques, qui sont donc une parcelle qui sert à montrer toutes les plantes qui servaient d'usage quotidien pour récurer les casseroles, pour pouvoir faire des balais, pour teindre le tissu, pour pouvoir faire de la fibre, donc pour s'habiller. Et c'est vraiment très important de ne pas perdre ces éléments-là. Quand on se rend compte qu'actuellement, toutes ces choses qui étaient dans la nature, juste à côté de nous, sont remplacées par des éléments qui partent aux déchets ultimes, comme les tampons à récurer et autres choses de ce genre. Donc, bon, ben, toutes ces techniques, on ne veut pas les perdre. Il y a aussi des ateliers de tissage, de filage, de fabrication de manches, des techniques pour conserver les légumes, les olives, qui font partie du cadre de l'association. Mais ici, le principal, c'est qu'on est un groupe d'amis et c'est une notion de partage. On travaille tout le jardin ensemble. On met le produit de la récolte sur une table et on partage en fonction des besoins des familles.
C'est bien ça. Le principal objectif de cette association Eco Jarvi, c'est d'organiser des jardins partagés coopératifs.
C'est exactement ça. Et c'est en même temps d'avoir un endroit qui est un peu un lieu pilote, qui est une école du jardin, avec des stages qui seront proposés à partir de ce début d'année, qui permettront de comprendre comment on fait un compost en climat méditerranéen et comment donc on arrive à faire vraiment de l'agriculture biologique avec une somme de petits trucs qui font que ça devient possible. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des méthodes miracles comme ça. Selon les coins, bien on va utiliser une méthode, une autre, et puis on va se débarrasser des éléments qui nous gênent dans la culture du jardin. Et puis, c'est très important, ici, c'est un endroit où on montre qu'il y a possibilité d'avoir des beaux légumes. C'est-à-dire que ce jardin, il faut qu'on montre qu'il puisse produire, c'est-à-dire qu'il soit vraiment vivrier, qu'il aide vraiment à vivre la famille. Et cette notion à la fois de partage, de partage avec les autres parce que c'est un jardin ouvert hein, qui permet à n'importe qui de venir apprendre ces techniques-là. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment le cœur du motif de l'association.
Aujourd'hui, sur ce jardin qui a un peu plus d'un an ou juste une année.
On va avoir un an bientôt, hein, le 15 février. Le 15 février, c'est donc on n'a même pas un an.
Donc vous êtes bientôt à votre premier anniversaire. Il y a combien de personnes qui sont venues vous aider ici à retourner la terre, à planter des légumes, ramasser, etc.
Bien, actuellement, on est une vingtaine de membres dans l'association qui viennent vraiment très régulièrement. Il y en a une quinzaine, et dont des enfants. Et on a un petit groupe d'enfants qui est vraiment très impliqué aussi, très dynamique et qui a pris en charge la création de la petite mare qui permettra de montrer que certains insectes se développent dans un milieu de ce genre-là et permet de faire le justement d'attaquer certains de nos insectes nuisibles. Et donc ça, c'est vraiment important aussi.
Alors, je parlais tout à l'heure d'objectifs principaux comme jardin partagé coopératif. Jardin, je vois à peu près. Donc là, c'est les fruits et les légumes vivriers. Partagé, c'est donc de pouvoir, je suppose, partager le fruit de vos efforts, les récoltes, etc. Et puis aussi les savoir-faire. Comment est-ce que...
Alors, il y a les deux techniques. Hein. Il y a les deux choses. Il y a le partage des techniques avec les membres de l'association. Et puis après ça, il y a le partage avec ceux qui sont en dehors de l'association. Et là, bien, on a reçu un centre aéré cet été, et puis bien, il y avait une vingtaine de gamins qui étaient alignés le long du sillon en train de planter un chou chacun. C'était la première fois pour beaucoup d'entre eux qu'ils étaient en contact avec la terre, et ça, c'est vraiment fondamental parce que ici, eh bien, dans la serre qu'on est en train de finir de construire, on va avoir un endroit où les classes vont venir, vont pouvoir faire des petits semis, vont voir comment la plante pousse, comment on arrive à faire qu'une plante devienne quelque chose qui nourrit l'homme et que eh bien donc les gens se rendent compte, que ce soit des adultes ou des gamins, que on dépend complètement de l'alimentation de la terre et donc du travail de la terre, et commencer de nouveau à reprendre le respect par rapport à ça, parce que c'est quand même assez fondamental, mais le respect en connaissance de cause, c'est-à-dire en utilisant toutes les techniques modernes qui permettent de faire qu'on ait un rendement sans utiliser de produits chimiques. C'est-à-dire que dans les techniques de grand-papa, eh bien, quand tu utilisais de l'arsenic, eh bien, là, on n'est pas d'accord. Hein? Quand, par contre, il allait couper du buis dans la forêt pour pouvoir faire du compost, eh bien, les composts de broussailles soi-disant révolutionnaires actuels, mon arrière-grand-père le faisait. Donc, il y a des choses aussi qu'il faut réévaluer. Et puis après ça, eh bien, il y a une autre chose fondamentale dans l'éducation de ce jardin, c'est qu'il faut se rendre compte qu'à l'origine, il n'y avait que très peu de légumes dans un jardin. Et puis après, eh bien, quand on a rencontré les différentes civilisations, on est, parfois, souvent avec des guerres d'ailleurs, eh bien, c'est là que chaque fois, le jardin s'est enrichi, mais alors de manière presque explosive, par à coup. Ce n'est pas une plante qui est venue après une autre, c'est d'un coup une vingtaine de plantes qui sont rentrées dans le jardin. Et quand on a rencontré les Amériques, là, ça a été carrément tout notre jardin d'été, pour ainsi dire, qui a été d'un coup offert par ces civilisations qu'on a détruites. C'est-à-dire les Incas, Toltecs, Aztèques et autres peuplades d'Amérique. Et ces gens-là, eh bien, imaginez maintenant un jardin l'été sans tomates, sans poivrons, sans piments, sans courgettes, sans haricots, sans pommes de terre. Je pense que ça ferait vraiment très peu, quoi, hein, sans maïs, sans tournesol, toutes ces choses-là, on les doit aux cultures amérindiennes. Donc, il faut arriver à ce que les gens s'imaginent que le plat provençal par excellence, qui est à base de tomates actuellement, c'était bien finalement quelque chose qui est relativement très récent, puisque ça a moins de 300 ans.
Alors là, nous sommes déjà en train de parler du jardin à tous les âges. Là, nous on se trouve dans la région Languedoc-Roussillon. Avant l'arrivée de tous ces fruits et légumes, à quoi ressemblait le jardin ?
À l'origine, le jardin, dans les temps, disons environ 500 ans avant Jésus-Christ, avant que les Gallo-Romains viennent ici, on avait déjà énormément de choses, contrairement à ce qu'on peut croire. On avait déjà des échanges énormes à travers la Méditerranée, puisqu'on vient de démontrer par des recherches génétiques que l'olivier est arrivé dans la région 4000 ans avant Jésus-Christ, et par le détroit de Gibraltar, et donc ça veut dire que déjà il y avait vraiment des échanges importants qui existaient. Il y avait donc toute la famille des navets, des radis, des choux, des poireaux, de l'ail, des côtes de bête, tous les aromates, tout ça, ça existait. Par contre, bien, si on regarde des choses aussi évidentes que la carotte, que les épinards, que le concombre et tout ça, c'était pas dans la région. Le concombre, il vient du Caucase. Les carottes, ça vient de l'Inde. L'épinard, ça vient d'Afghanistan. Donc, si on regarde le sarrasin, qui est arrivé ici quand même très, il y a déjà relativement très longtemps, c'est quelque chose qui vient des hauts plateaux de l'Asie. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on doit à ces pays-là. Le blé, eh bien, ça vient du Golan. Donc, les premiers blés étaient donc dans le nord de la Palestine. Donc ça, c'est tout ça. C'est en réalité tout ce qu'on consomme actuellement, c'est un concentré de l'ensemble et des découvertes majeures qui ont été faites par l'ensemble de l'humanité. Donc c'est un cadeau de l'humanité.
Il serait donc possible d'avoir dans son jardin une petite planète.
On a la planète obligatoirement. Du moment où on fait un jardin, sans s'en rendre compte, eh bien on a l'héritage de 500 générations d'hommes qui ont donné pour ceux qui venaient tout ce qu'ils ont trouvé. Parce que c'était la survie de l'humanité par la suite. Et ce que certains actuellement veulent récupérer et voler à tout le monde en le brevetant. Donc le riz basmati trouvé par des personnes en Inde, actuellement il y en a qui ont voulu le breveter pour pouvoir faire qu'ils ramassent des droits sur quelque chose que 500 générations d'hommes ont donné pour les générations suivantes. Donc on est actuellement dans le plus gros scandale qui puisse exister par rapport à cette transmission fondamentale qui fait partie du patrimoine de l'humanité.
Alors on évoque ensemble le fait qu'au fur et à mesure des âges, le jardin s'est enrichi en variétés et en espèces végétales. Moi j'aurais peut-être une question inverse. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une perte de diversité entre le jardin d'aujourd'hui et celui de nos ancêtres dans ce sens-là? Est-ce qu'il n'y avait pas avant peut-être plusieurs des variétés de choux plus nombreuses cultivées dans le jardin qu'aujourd'hui?
Alors il y a plus nombreuses, non, parce qu'on arrive actuellement des choux à en avoir un énorme choix, mais différentes, oui. Par exemple, les salades, on a une vieille variété qu'on aide à sauvegarder ici qui est vraiment tout à fait locale puisque c'est la mouchetée de Salasque. Salasque étant à côté de Clermont-l'Hérault, hein, du Salagou. Eh bien, cette variété-là, elle n'est pas très énorme, enfin, ce n'est pas quelque chose de vraiment volubile. Par contre, c'est une salade qui est vraiment très typée au point de vue goût et qu'il ne faut pas perdre parce que ces variétés anciennes ont un capital génétique qui leur est spécifique. Et encore, ce n'est pas vraiment des variétés, c'est des populations, c'est-à-dire c'est un ensemble de variétés beaucoup plus riches qu'un clone qui permettent de faire qu'on arrive à avoir par n'importe quel temps un minimum de production. Et donc, ça c'est vraiment une idée fondamentale. On se rend compte que c'est donc ces populations de pommes de terre ou autres qui nous viennent des différents pays sont capables de nourrir le paysan et les gens qui sont autour d'eux pendant toute année, que ce soit une année pluvieuse, une année où il fait froid tardivement. En moyenne, il y a toujours un moyen de nourrir. Si vous prenez les variétés modernes, eh bien, il y a une année où elles vont produire énormément. Et puis pendant 3 ans, elles vont produire médiocrement ou on va être obligé de traiter énormément parce que elles sont affaiblies dans leur capital génétique. Parce que c'est trop sélectionné pour pouvoir produire dans un certain cadre vraiment très particulier de climat. Et ça, c'est vraiment très dommage parce qu'on est en train de rendre les populations de plus en plus fragiles et de plus en plus dépendantes des importations ou autres et de la mondialisation, alors qu'ils avaient la capacité de vivre quoi qu'il se passe ailleurs. Donc ça aussi, on est dans le même cadre pour nous. Actuellement, on a certaines variétés qu'on ne veut pas perdre, qui sont au niveau local, mais au niveau mondial, c'est des milliers de variétés qu'on a perdues toutes ces dernières années et qu'on essaye actuellement par un mouvement mondial des paysans qui sont vraiment conscients de ces problèmes de la terre, qu'il faut vraiment les garder et les transmettre vraiment pour pouvoir faire que dans n'importe quelle circonstance, nos enfants, nos petits-enfants auront un moyen de manger.
Alors vous me disiez tout à l'heure que vous avez fait le choix ici de l'agriculture biologique et aussi le choix de faire un jardin qui soit capable de produire suffisamment pour les personnes qui viennent y travailler. Est-ce qu'il est toujours facile, par le biais de ce choix de l'agriculture biologique, de trouver des traitements appropriés qui vont permettre de quand même espérer une bonne récolte au terme de la saison ?
Mais a priori, si on a à traiter, c'est qu'on s'est trompé. Donc, qu'on a mal dirigé la plante et donc que, bon, ben, c'est le dernier recours. En réalité, il y a énormément de choses comme le compost, quand il est vraiment bien fait, qui fait que la vie microbienne, au fur et à mesure de ce que la plante prend des éléments dans le sol, la vie microbienne et la vie des champignons et de tout ce qu'il y a dans un sol, refournit dans le sol les éléments sous forme complexe et non pas seulement sous forme saline, contrairement à ce qu'on a développé dans la culture intensive, qui permettent à la plante de se nourrir et de se développer sans avoir des cellules dilatées.
Finalement, votre position, c'est de dire qu'une plante en bonne santé sera capable de se défendre?
Eh bien, a priori, notre travail de jardinier, c'est d'être assez intelligent et assez à l'écoute de la nature pour pouvoir faire que la plante n'ait pas de stress. Si elle n'a pas de stress, eh bien, c'est comme nous, hein. Si on a du stress, on tombe malade. Mais la plante, c'est pareil. Si on lui met un stress, c'est-à-dire un engrais chimique, eh bien, elle tombe malade. Donc, elle va produire moins. Ensuite, eh bien, il faut voir la qualité qu'on produit. Parce qu'en moyenne, les produits bio, eh bien, ils sont beaucoup plus concentrés. Donc, un blé, même par exemple sur des blés, on a constaté que en valeur boulangère, on se retrouvait à des taux qui étaient en moyenne entre 5 et 10% meilleurs qu'ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment très important. Ensuite, c'est la manière de travailler ce blé. Si on le travaille avec un vrai levain, comme il faut, eh bien, on va encore enrichir énormément la capacité de ce blé à être digéré. Et donc, eh bien, on va avoir pas trop d'eau qui va être à l'intérieur parce que sinon, ça ne va pas lever comme il faut. Et donc, eh bien, finalement, le blé bio, le blé transformé en pain bio, va être au kilo moins cher que la baguette par rapport à ce qu'il nourrit. Donc il faut ramener maintenant le bio à sa véritable valeur alimentaire et non pas seulement à son prix au kilo sur le marché. Et ça, c'est vraiment très important. Et nous, quand on fait un produit ici, eh bien, on sait que ces produits-là, eh bien, on va les digérer comme il faut. Hein, un chou, eh bien, il reproche pas, comme on dit. Hein On le digère bien.
Alors nous sommes ici juste à côté de l'abbaye de Vignegoul, donc entre Saint-Georges-d'Orc et Pignan, sur ce jardin cultivé, travaillé par l'association Éco-Jarvie. Alors moi j'étais venu aujourd'hui pour peut-être faire ensemble une visite guidée de ce jardin, et puis peut-être ensemble si on peut aller jeter un coup d'œil à cette mare,
Bien sûr.
voilà, et à ce hôtel des insectes
Cet
et des
hôtel des
prédateurs.
insectes.
Alors là nous sommes à la radio, donc il est peut-être difficile de faire des images, mais par le son, de quelle manière on pourrait décrire ce jardin?
Eh bien, il y a des parcelles qui sont de manière un peu aléatoire à l'origine, qui ont été mises en place. Et il y a donc une parcelle pour la préhistoire. Cette parcelle pour la préhistoire, eh bien sûr, on va retrouver dedans les salades sauvages. On va retrouver eh bien, des fraises, on va retrouver tout ce qui est oseille, ciboulette, l'ail, tout ça en fait partie. Seulement, ce jardin de la préhistoire, pendant l'hiver, il envahit l'ensemble du jardin. Parce que tous les produits qui sont arrivés d'Amérique, par exemple, eh bien l'été, oui, ils produisent bien. Mais l'hiver, ici, ils disparaissent. Eh bien, à ce moment-là, il y a une rotation de culture. Et sur l'ensemble du jardin, pour ainsi dire, eh bien, on trouve des produits qui sont issus de la préhistoire, les poireaux, les choses comme ça. Bon, tout ça, on en trouve l'hiver un peu partout. L'été, la parcelle se restreint au carré qui lui est réservé donc pour pouvoir montrer ce que c'est que les produits de la préhistoire. Donc dans ces salades des champs, bon, vous allez avoir les écologistes de Lezières, ils vous feront des balades, ils vous feront découvrir tout ça, mais vous pouvez aussi les trouver chez nous, plantés, pour si jamais on ne les a pas dans ce carré-là, ben on les repique ici pour pouvoir les faire découvrir. Donc ça, c'est pour la préhistoire. Après ça, il y a un carré qui est gallo-romain. Le carré gallo-romain, bien, il a deux aspects. Il a un premier aspect de structuration parfaite, c'est-à-dire que ce sont des petits carrés. Les gallo-romains ont tracé l'ensemble du paysage de notre région. On sait actuellement que quand on prend une photo vue d'avion, eh bien, tous les champs ils sont orientés de la même manière. Et ça, c'est les ingénieurs gallo-romains qui les ont installés. Et donc, c'est à eux qu'on doit, encore actuellement, un tiers des marques de limite de champ qui ont été donc installées par ces ingénieurs. Ce petit coin gallo-romain, eh bien, on va y trouver de la vigne, on va y trouver ces petits carrés, on va y trouver aussi des plantes un peu bizarres comme la rue, qui est une plante abortive, qui est donc une plante qui est quand même un poison violent. Et à condition, si on en mange trop, puisqu'on appelait ça la faiseuse d'ange, autrement dit, c'était quand même assez violent. Les Romains trouvaient que ça avait un goût très fort et que, bon, ils aimaient bien ça. Ils en mettaient un petit peu comme condiment dans la salade. Donc ça et la ristoloche, qui sont deux plantes que moi je trouve absolument horribles, j'arriverai pas à bouffer ça. Eux, ils trouvaient, ils s'en foutent, ces Romains, que c'était pas mal et donc ils mettaient ça dans la salade. Donc dans cette zone gallo-romaine, eh bien on va avoir cette structuration qui est vraiment la caractéristique de l'époque. Par contre après, eh bien on arrive au Moyen Âge. Moyen Âge, ici c'est Renaissance, eh bien il y a des choses qui étaient déjà à Rome, arrivées à Rome du temps des Romains, qui n'ont franchi les Alpes que beaucoup plus tard, comme le pêcher, comme le cognassier, comme toute une série de plantes qui sont donc dans la zone qui est réservée à la période donc du Moyen Âge et de la Renaissance. Ensuite, eh bien, on a la parcelle qui est la plus grande en été, qui est la parcelle donc des grandes découvertes. Avec, bien sûr, tout ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire tous ces produits qui viennent d'Amérique, de la pomme de terre à la tomate, et ainsi de suite. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement démonstratif, puisqu'on a toujours une quinzaine de sortes de tomates, plusieurs sortes de piments, tout ça, c'est vraiment important, des courgettes, on a toutes les formes, de toutes les couleurs. La courge, c'est pareil, ça vient de là-bas, donc c'est vraiment c'est assez extraordinaire. Ensuite, eh bien, il y a deux parcelles encore qui sont vraiment très importantes. Bon, il y a le jardin moderne. Dans le jardin moderne, on va montrer des salades qui ont été créées récemment parce qu'elles sont à feuilles encore plus fines. C'est des éléments qui sont un peu délicats et qui sont agréables. Et puis, on va trouver la tétragone qui vient de Nouvelle-Zélande. On va trouver le kiwi qui arrive aussi de Nouvelle-Zélande et ainsi de suite. Donc, on va là montrer le chou chinois et donc l'enrichissement encore récent de ce jardin. Puis, la parcelle, il y a une autre parcelle vraiment fondamentale, c'est cette parcelle des plantes que j'appelle des plantes qui sont domestiques. Domestiques parce qu'elles faisaient partie de la vie de la maison, domus la maison. Au niveau quotidien. Donc il y a à l'intérieur la grande consoude qui servait à faire des lessives, servait aussi comme engrais, il y a le safran qui servait à donner du goût aux aliments mais aussi à colorer les vêtements, il y a aussi le millet à balai qui servait à faire des balais comme ça le dit bien, et puis toutes les plantes qui servaient à faire des teintures, et là il y en a au moins une dizaine déjà, il y a les plantes qui servaient à récurer les casseroles comme la garance voyageuse ou la prêle, et ainsi de suite. Donc toutes ces choses-là qui ont été remplacées par des produits industriels actuellement, eh bien ils étaient dans le jardin quotidien. Donc on n'avait pas besoin de ce pétrole pour pouvoir nettoyer une casserole. Voilà. Ensuite, l'inauguration d'aujourd'hui, je ne parle pas du carré des aromates, parce que le carré des aromates, c'est quelque chose, ce sont des plantes vivaces, aromatiques, qui sont vraiment fondamentales par rapport à la médecine et au niveau culinaire. On les connaît quand même assez bien. Mais aujourd'hui, on va découvrir un truc assez extraordinaire, c'est l'hôtel des insectes. Donc, cet hôtel des insectes, eh bien, on l'a bâti à partir d'un arbre qui était au milieu. et qui était en très mauvais état, qui était creux. Donc on l'a abattu, ça a fait un peu plus de lumière pour l'ensemble du jardin et ça a permis de faire des cultures, en particulier dans le jardin des grandes découvertes. On a donc accumulé tout ça, on a mis des petites pierres, on a mis des fagots, on a mis toutes sortes de gîtes possibles pour que des insectes puissent venir se loger à cet endroit-là. Et ces insectes, ils ont deux rôles principaux. Le premier, c'est d'équilibrer le jardin par rapport aux chenilles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de guêpes solitaires qui vont aller attraper une chenille et puis le donner au couvain, ou d'autres, bien, c'est carrément une chenille qu'ils mettent ou une araignée qu'ils attrapent et qu'ils mettent dans une petite loge en terre. Vous savez, c'est les guêpes très longues, là, c'est les guêpes qu'on appelle maçonnes, et celles-là, bien, elles pondent de l'œuf dessus, et puis l'animal est paralysé, et puis, voilà. Et puis, on va avoir aussi un rôle très important de ces insectes, qui est la pollinisation. Donc, les guêpes et les autres petits insectes qu'on peut avoir dans cet hôtel aux insectes qui vont être protégés particulièrement là, dont les coccinelles, bien des choses comme ça, vont pouvoir à la fois protéger le jardin, lui donner son équilibre par rapport aux insectes nuisibles, mais en même temps faire la pollinisation et faire donc que quand une courgette pousse, eh bien, elle ne va pas avorter. Elle va devenir vraiment une belle courgette. Donc ça, c'est vraiment très important.
Très bien, merci à vous Luc Ménard. Donc je rappellerai que il y a plusieurs visites qui sont organisées tout au long de l'année sur ce jardin.
Alors il y a deux fêtes que nous organisons, une fête au printemps qui est un peu plutôt presque un carnaval quoi, disons une fête pour pouvoir lancer le jardin et au cours de laquelle on va donner des plans à d'autres associations qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin aussi développé que le nôtre et donc ils pourront profiter des plans de l'association. Et puis il y a une fête à l'automne qui est en même temps la fête des métiers vivriers qui permet, où on avait plus de 300 personnes qui sont venues avec 7 ateliers différents cette année. Et on montre en même temps tous les outils, la manière d'utiliser ces outils, tout ça. Il y a ensuite tous les samedis visites guidées du jardin et de l'abbaye. Et donc là, une fois à 14h30 et une fois à 16h. Et puis, il y a tous les stages qui sont sur ecojarvie.free.fr. Donc, vous pourrez retrouver pour pouvoir apprendre à fabriquer un petit pousse-pousse pour pouvoir sarcler beaucoup plus facilement les légumes. Comment on va pouvoir faire des semis, comment on va faire un vrai compost, et ainsi de suite.
Voilà, je vous invite à venir découvrir ici ce jardin, juste à côté de l'abbaye de Vignogoul, sur la route entre Saint-Georges-d'Orc et Pignan. Tout ça est proposé par l'association Ecojarvie. Vous pouvez trouver leurs informations sur internet http://ecojarvie.free.fr. Merci Luc et à très bientôt, j'espère.
Avec plaisir.
Juste avant de se quitter, quelques rendez-vous proposés notamment par l'association Demain la Terre, mercredi 2 février prochain, conférence-débat intitulée « Rôle et avenir des berges de l'Hérault ». C'est à la médiathèque de Gignac à partir de 20h. Quels sont les intérêts écologiques de la ripisylve du fleuve? Comment la préserver? Quels sont les projets d'aménagement des berges? Et ce, à l'occasion des Journées mondiales des zones humides, c'est avec le syndicat mixte du bassin versant du fleuve Hérault. Rendez-vous à Gignac le mercredi 2 février à 20h. Et puis autre sortie découverte, Baladoc ou l'olive et son univers, samedi 5 février de 14h à 17h, rendez-vous à Agnane. C'est une visite d'une oliveraie puis d'un moulin pour découvrir la culture et la transformation de l'olive et s'informer sur le contexte mondial de l'oléiculture. C'est avec Thibaut Chauvin-Buteau de Demain la Terre. Davantage de renseignements, un site internet www.demainlaterre.fr. Sans oublier le centre Sébéna d'Olargues qui propose une sortie le samedi 5 février prochain. Rendez-vous à 9h en bord de rivière. C'est une sortie nature intitulée « Découverte de la ripisylve de l'Orbe ». Pour célébrer également les journées mondiales des zones humides et leurs 40 années de protection, rendez-vous à Olargues le samedi 5 février prochain à partir de 9h. Renseignements au 04 67 97 88 00. C'est la fin de l'émission. L'eau à la bouche, les pauses musicales étaient signées. Achat, rendez-vous le mois prochain.